Bienvenue à l'écoute de Radio Cristal pour cette nouvelle émission, une exception dans notre programme. Nous allons faire une petite interruption dans nos programmes habituels pour cette semaine et le prochain week-end. Nous approchons à grands pas de la fête de Pâques, mais que connaissons-nous vraiment de l'histoire de cette fête et comment elle était vécue aux origines? Eh bien, je vous propose d'avoir, durant ces prochaines minutes, un regard différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et nous allons retrouver l'association Juifs pour Jésus, qui était invitée par l'église protestante baptiste d'Épinal dans le cadre d'une conférence à la fin du mois de mars dernier. Nous y accueillons Chantal Mandras qui nous présente donc le regard sur la Pâque juive qui est appelée Pessah.
Alors bienvenue. Alors imaginez qu'on est dans mon salon. Moi, je m'appelle Chantal Mandras, mais mon nom de jeune fille c'est Onona. Mon père est juif du Maroc, un juif séfarade, on appelle cela. Et tout ça pour vous dire que imaginez que vous êtes dans mon salon. Et à cette table, il y a à la fois mon grand-papa et à la fois tous les petits neveux et nièces qui sont rassemblés. Et cette fête, Pessah, rassemble tout le monde. On veut vraiment transmettre cette fête de génération en génération parce que c'est l'Éternel qui nous l'a commandé. Alors aujourd'hui, si vous demandiez à des enfants juifs qui est le héros de Pessah, qu'est-ce qu'ils répondraient d'après vous? Moïse. Et si ces enfants juifs croyaient en Jésus, qu'est-ce qu'ils allaient répondre? Qui est le héros de la Pâque, de Pessah? Jésus, exactement. Alors ça peut sembler bizarre, mais en fait ça ne l'est pas, parce que Jésus était juif. Et lorsqu'il a vécu parmi nous, il célébrait chaque année Pessah avec sa famille. Et non seulement ça, mais je pense que les symboles de l'histoire de Pessah s'appliquent à lui. Parce que l'histoire de Pessah est l'histoire de la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et vous allez voir que Jésus nous a délivrés d'un autre esclavage. Et j'espère que vous allez aussi voir à travers cette présentation la mission de la vie de Jésus, sa mort, mais aussi sa résurrection. Alors, on va lire deux petits versets. Luc 22, les versets 7 et 8.
Le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier la Pâque, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. »
Est-ce que vous pouvez continuer au verset 13, s'il vous plaît?
Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et préparèrent la Pâque.
Merci. Donc vous voyez que Pessah commence avec une fête qui s'appelle la fête des pains sans levain. C'est pour ça qu'à Pessah, et pendant 8 jours, on ne veut rien manger qui contienne du levain. Le levain est fréquemment utilisé comme symbole de péché dans la Bible. Et donc c'est pour ça qu'on a un pain azim ce soir, qu'on va manger. Et je vais vous l'expliquer par la suite. Et normalement, c'est la femme qui va faire un grand nettoyage de printemps. Elle va commencer 6 semaines avant Pessah, et elle va vraiment faire un nettoyage en fond en comble dans la maison, parce que tout doit être propre pour Pessah, c'est très important. Mais si vous avez été attentif, à qui est-ce qu'il demande Jésus de préparer Pessah? Pierre et Jean, ce sont des hommes. Alors pourquoi est-ce que c'est à des hommes qu'il a demandé? Bien peut-être parce que dans le judaïsme, l'homme est celui qui est responsable devant Dieu, non seulement pour la préparation de Pessah, mais aussi pour toute la cérémonie. Mais alors pourquoi est-ce que c'est les femmes qui font pendant 6 semaines le nettoyage? Eh bien nos rabbins ont trouvé une formidable explication, comme toujours. Alors oui, tout à fait, c'est à la femme de faire le nettoyage de printemps. Mais elle va laisser quelques miettes dans la maison, à un endroit particulier. Et avant la fête des pains sans levain, elle va demander à son mari d'aller les chercher. C'est ce qu'on appelle Bedokat Chametz, la recherche du levain. Alors, où peuvent donc être ces miettes? Elles peuvent être partout. Elles peuvent être derrière le canapé, elles peuvent être n'importe où. Mais l'épouse est tellement bonne parce qu'elle va les cacher au même endroit que l'année précédente. Et il y a 2 ans, c'était exactement au même endroit. Alors, je tiens des ustensiles un peu bizarres. Une cuillère en bois, une plume et une serviette. Et pourtant, c'est avec ça que le mari va aller chercher ce levain. Et parce qu'il est interdit d'y toucher, il va se munir d'une cuillère en bois et d'une petite plume pour ramasser ses miettes. Une fois qu'il a trouvé où se trouvent ses miettes, il va les ramasser dans sa petite cuillère et il va entourer ça avec une serviette. Et jadis, il allait à la synagogue et dans la cour de la synagogue, il y avait un feu. Donc il jetait son petit ballotin dans le feu. Aujourd'hui, on peut simplement le jeter par exemple à la poubelle dehors. Et ensuite, quand il revient, il dit « Ah, maintenant j'ai purifié ma maison de tout levain. » Mais pour être sûr qu'il n'oublie pas quelques miettes, il va dire que s'il y a quelques miettes que je n'ai pas vues, qu'elles soient considérées comme nulles et non avenues, comme la poussière de la terre, amen. Donc notre maison est purifiée. Et nos ancêtres, en Égypte, Dieu leur a enseigné de manger la Pâque à la hâte. Ils avaient des sandales aux pieds, une ceinture autour des reins et un bâton, prêt pour un départ précipité. Mais aujourd'hui, on n'est plus esclave et on peut manger à notre aise. Voyez-vous, ces coussins sont faits pour ça. Alors que nos ancêtres, ben, ils ont mangé un peu à la hâte. Eh bien, ce signe de confort, c'est pour montrer, ben voilà, c'est un symbole de liberté. On peut manger à notre aise. Et quand on va boire les quatre coupes qui sont là, on va s'incliner sur le côté gauche en signe, justement, de liberté. Et vous voyez, par exemple, dans l'histoire, quand on voit que Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples, il est noté que le disciple que Jésus aimait était penché sur sa poitrine. Ben, c'est tout simplement la disposition des sièges, parce qu'à ce moment-là, ce n'était même pas des chaises, mais c'était des chaises longues à la romaine. Et donc, quand il s'inclinait sur le côté gauche, ben, bien sûr, il touchait quelque part. Il était proche de la poitrine de Jésus. C'est pour ça. Maintenant que la maison est purifiée, le père de famille est habillé de manière particulière. Il va mettre une tunique blanche qui s'appelle un kittel. Et le blanc, c'est un symbole de royauté. Et il va mettre une espèce de mitre, de kippa, parce que ce soir, il est le roi. Il se couvre la tête en signe de respect devant Dieu. Et puis, vous avez des agadas. Et donc, cette Haggadah nous permet de suivre la présentation de Pessah. Comment est-ce qu'on célèbre Pessah ? Et donc, à table, on a tous une Haggadah qui nous permet de suivre le déroulement de cette fête. Et elle dure très longtemps, généralement toute la nuit. Et je vous disais, on va boire quatre coupes différentes durant ce Seder de Pessah. Et donc, le Seder, ça veut dire ordre, parce que la fête suit un ordre particulier. La première coupe, ça s'appelle la coupe de sanctification, ou la coupe Kiddush, celle pour laquelle on a prié tout à l'heure. Et ensuite, nous avons la coupe des plaies, les plaies d'Égypte, tout à fait. Et la troisième coupe s'appelle la coupe de rédemption, la coupe de rachat. Puis, nous avons la dernière coupe, la coupe Hallel, qui est une coupe qui veut dire louange. Et ensuite, les enfants sont mis à contribution, parce qu'ils vont lire quatre questions. Eh bien, ces questions, elles sont chantées, hein.
Pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits ?
Et donc, le grand-père va dire, c'est à cause de ce que l'Éternel a fait pour mes ancêtres, lorsqu'il nous a délivrés d'Égypte par sa main puissante et son bras étendu. Dieu avait demandé à nos ancêtres de prendre un agneau sans défaut, de le rôtir sans briser aucun de ses os et d'appliquer le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux des portes des maisons. Ainsi, quand l'ange de la mort a vu le sang sur les maisons, il est passé par-dessus ces maisons. C'est là d'où vient le nom Pessah, passer par-dessus. Mes ancêtres ont cru en l'efficacité de ce sang. Et grâce à ça, ils ne sont pas morts. Parce qu'il y avait cette dixième plaie qui était la mort des premiers-nés, à la fois des enfants, des humains, mais à la fois aussi des animaux. Mais grâce au sang et grâce à leur obéissance, eh bien, ils ont été sauvés. Et après, ils ont pu partir d'Égypte. Voilà pourquoi cette nuit est différente de toutes les autres nuits, parce qu'on célèbre cette commémoration. Ensuite,
toutes les autres nuits, nous mangeons du pain levé ou pain azyme. Pourquoi cette nuit ne mangeons-nous que du pain azyme ?
Alors, c'est parce que nos ancêtres, dans leur hâte de quitter l'Égypte, n'ont pas eu le temps que leur pain soit levé. C'est pour ça qu'on mange du pain azyme. Et vous avez sur la table ce petit sac. Alors, je vais faire attention. Ça s'appelle une matzatosh. Donc, une matza, c'est ce pain particulier, sans levain. Matzatosh va contenir trois couches de Matsa. Donc Matsot au pluriel. Et le père de famille va prendre que celle du milieu. Alors c'est toujours laborieux parce qu'il faut bien que je compte. Donc là il y a la première. Et elles sont séparées par un linge. Donc elles ne peuvent pas se toucher. Donc je pense que c'est celle-ci. Il va la prendre et il va faire une prière sur la matza. Et ensuite, il va le faire. Il va la briser, il va laisser un bout de côté et il va donner à cette partie un nom particulier. Le nom de Afikomen. Alors, c'est pas un mot en hébreu, c'est un mot grec qui veut dire soit dessert, soit celui qui vient plus tard. Et c'est exactement ce qu'on va faire. On va le cacher et c'est les enfants qui devront le retrouver. Alors, c'est le moment maintenant de lire la troisième question.
Toutes les autres nuits, nous mangeons des légumes et des herbes de toute espèce. Pourquoi cette nuit ne mangeons-nous que des herbes amères ?
Alors, c'est parce que l'Éternel nous l'a commandé ainsi, de manger des herbes amères. Et vous avez là ce qu'on appelle un plateau du céder, plat du céder. Et donc, dans chaque compartiment, on met un aliment particulier. Bien sûr, c'est un peu plus goûtu dans les foyers juifs. Mais je vais vous présenter ces aliments. Et ensuite, si vous voulez goûter, vous pourrez. Le premier s'appelle karpas. On utilise du persil ou de la laitue. Ces herbes représentent la vie. Mais avant de les manger, on va les tremper dans l'eau salée, qui représente l'amertume de la vie étant esclave. Et on va manger ça. Et ensuite, nous avons le razaret. Alors ça, on le mange pas. On utilise soit une racine de réfort. Donc là, je peux le distribuer parce que voilà. Ou soit un oignon, en signe d'amertume encore. Cette vie qui est amère. On veut vraiment se rappeler l'amertume de la vie de nos ancêtres. On va pas manger un oignon comme ça, ce serait pas bon. Puis nous avons ce que nous appelons le maror. Alors c'est du réfort frais et on est censé prendre une pleine cuillerée de réfort. Et vous savez ce qui arrive quand on mange une petite cuillerée de réfort? On pleure. C'est aussi cette même symbolique pour se rappeler l'esclavage. Cette vie tellement dure, 400 ans d'être esclave, c'était pas facile comme vie.
Et bien voilà pour la présentation de cet objet, le plateau de céder et donc de ses premiers ingrédients qui le complètent. Nous aurons l'occasion de découvrir l'autre partie de ce plateau dans notre prochaine émission. Donc surtout, restez connectés à Radio Cristal, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours en compagnie de Chantal Mandras pour mieux comprendre la Pâque selon la fête juive de ses origines, puisque Chantal Mandras fait partie de l'association Juifs pour Jésus. Elle répondait à l'invitation de l'église protestante baptiste d'Épinal.